7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons sur RFI d'éducation. Et aujourd'hui, pour tous les jeunes qui veulent étudier ou même travailler dans un pays anglophone, comment s'y retrouver parmi, dans la jungle, je dirais même, des tests d'anglais entre TOEFL, TOEIC, le SAT, l'IELTS, tous ne sont pas reconnus partout et surtout n'évaluent pas les mêmes compétences en anglais, qu'il s'agisse d'un stage, d'une admission dans une université anglophone. Alors, comment se préparer à ces tests? Les voisins, c'est vraiment pour vous le moment de poser vos questions et de partager vos expériences. Appelez-nous tout de suite à propos des tests d'anglais si vous vous sentez concerné au 33 1 84 22 71 71 pour dialoguer avec nos invités. Sophie de Tarlet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste au Figaro étudiant. Vous avez évidemment fait de nombreuses enquêtes sur ce sujet qui intéresse beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, hein, avec l'internationalisation des études. Thomas Alexander, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Good morning. Vous êtes enseignant de langue anglais, oui. langue étrangère. Et accessoirement aussi auteur pour Studiarama, qui est un site spécialisé dans la formation, l'orientation des étudiants. Cécile Loyer, bonjour.
Bonjour et bonjour aux voisins.
Vous êtes responsable de communication pour Cambridge English. Alors Cambridge English, il faut dire que c'est en fait le département de la célèbre université Cambridge qui est spécialisé dans la certification. C'est là que sont élaborés une partie de ces fameux tests d'anglais, à savoir un des plus célèbres qui est l'IELTS. Alors évidemment, vous vous dites en anglais... IELTS.
IELTS, absolument.
D'accord. Bon, donc pour les voisins, c'est bien l'IELTS en français. 33 1 84 22 71 71. Tout savoir sur les tests d'anglais, c'est le sujet du jour aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook. Maman, qui a 24 ans, qui est à Niamey, au Niger, nous dit l'apprentissage de l'anglais est très important, c'est la langue du business, mais parler anglais dans des pays francophones, même si c'est demandé, est-ce vraiment nécessaire? Ici au Niger, mes aînés ont étudié dans des pays anglophones et les tests de langue ne leur ont pas servi, sauf à remplir leur CV. Alors évidemment, on va en parler, hein, de la nécessité ou pas de pouvoir certifier d'un test d'anglais. Massir, qui est à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, nous dit « Nous vivons dans un pays francophone, nous acharnons déjà à étudier le français depuis des années et maintenant on nous impose l'anglais. Est-ce normal ?» Abdallah Aloubumbashi, qui est dans le sud de la République démocratique du Congo. J'étais partie étudier dans un pays anglophone, la Tanzanie, après ma terminale. Lorsque je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'avec mon niveau d'anglais du lycée, eh bien, je ne pouvais pas du tout y rester. J'aurais dû évaluer mon niveau avant de partir. Claudel à Cotonou, au Bénin, elle nous envoie le message suivant. Maintenant, les programmes internationaux dans les pays francophones exigent une bonne connaissance de l'anglais. Il faut donc passer un test. Même s'il est cher, pour prouver son niveau, c'est très important parce que l'anglais ouvre beaucoup de portes. On a envie de vous entendre de vive voix, dialoguer, raconter vos expériences aussi au 33 1 84 22 71 71. Alors, à quoi servent ces fameux tests d'anglais, Sophie de Tarlet?
Ah bah, d'abord, à s'améliorer en anglais, hein, c'est déjà un plaisir. Hein. Je crois que vous parliez du plaisir d'apprendre les langues étrangères, c'est déjà un plaisir. Mais c'est vrai que le problème, c'est que le niveau scolaire d'un élève francophone qui passe son bac, aujourd'hui, ne veut pas dire grand-chose, hein, en France comme ailleurs. C'est-à-dire, on évalue l'écrit, on évalue parfois l'oral, mais c'est vrai que c'est pas un niveau extraordinaire. La preuve, le niveau... alors, on regarde pour chaque pays, mais c'est vrai que par exemple en France, le niveau des Français n'est pas très élevé au niveau des évaluations internationales. Donc on a besoin de montrer son niveau au-delà de son niveau scolaire, je dirais. La note du bac, finalement, ne suffit pas. En fait, c'est ça le problème. Si la note du bac suffisait à montrer son niveau, bah, honnêtement, on n'aurait pas besoin de passer ses tests. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé de payer pour montrer qu'on a un niveau d'anglais, alors que ce niveau est
alors
est
qu'on envoie déjà ses résultats au bac et pour étudier dans une université.
Moi, j'ai passé le TOEFL alors que quand j'étais étudiante, alors vous faites partie de Cambridge, mais j'avais passé le TOEFL à l'époque, alors que quand même je passais le bac. en anglais, quoi.
C'est ça qui est dingue. Ouais. Le souci, c'est que l'éducation nationale en France a fixé un niveau pour le bac, c'est le niveau B2. Et nous, à l'université de Cambridge, on estime que moins d'un bachelier sur cinq a vraiment ce niveau. Et la note est, qui est donnée au bac, elle est définie en fonction de standards, de pourcentage de bacheliers qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas significative.
Il y a 5 millions de candidats qui passent les tests Cambridge English, à savoir, il y a plein de tests différents. Rien que pour l'IELTS, il y a 1,5 million de candidats par an et dans le monde. Hein. Quelles sont les nationalités qui ont les plus mauvais niveaux?
Alors, les Français sont très mal placés, je dois le dire. En fait, on est les derniers en Europe. Hein. Ouais. Réellement, pour la maîtrise d'une langue étrangère, ce sont les Anglais, avec la maîtrise du français. Mmh. Mais pour la maîtrise de l'anglais, ce sont les Français qui sont les derniers. Par exemple, un Lituanien ou un Croate est bien meilleur en anglais qu'un Français, même un Espagnol. Hein, ou un
L'Espagne et le Portugal, ces deux pays, par exemple, qui nous ressemblent un peu au niveau de la langue.
Hein. Ils ont en fait énormément progressé, parce qu'il y a encore quelques années, ils étaient mauvais aussi
en
anglais.
Il faut savoir que ça fait pas plaisir à tout le monde, c'est qu'ils ont fait des progrès, oui, mais au détriment des autres langues. C'est-à-dire qu'on ne parle plus, on n'apprend plus le français en Espagne. Donc ils ont tout misé sur l'anglais. Ils ont mis une langue obligatoire. Ils ont dit on n'a pas les moyens finalement de donner des cours de langue, plusieurs langues étrangères. On va tout miser sur l'anglais. Donc c'est un choix politique qui n'est bien. En France, on n'est pas prêt à le faire.
C'est très lié au tourisme en fait.
Qu'est-ce que les tests. Mais ça prouve aussi que des pays peuvent s'améliorer.
Tout
une
à
politique
fait.
Publique
c'est ça aussi.
De langue.
Parce qu'on a tendance à se dire que les Français sont biologiquement incapables d'apprendre l'anglais. C'est espèce dans nos gènes en fait. On ne pourrait pas, on serait incapable. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait possible, puisque des pays latins ont fait ce pas.
Vous savez que nos auditeurs qui nous écoutent en Afrique subsaharienne sont multilingues et qu'en général, ils ont de grandes facilités à apprendre des langues étrangères, si tant est qu'on leur en donne les moyens,
exactement.
Bien évidemment. Thomas Alexander, vous qui êtes enseignant d'anglais, qu'est-ce que ces tests globalement évaluent finalement? Qu'on attend des jeunes qui passent ces tests?
En fait, sur différents tests, ce qui est justement ce qu'on en parlait par rapport au TOEFL, TOEIC, l'IELTS, IELTS, GMAT et autres, en fait, chaque test a un but précis. C'est-à-dire, par exemple, le TOEIC, on va juste évaluer la capacité à écouter et à lire l'anglais. Et c'est vrai que pour certains, en tout cas certaines entreprises, pour eux, ça suffit. Mmh. Notamment, quand il y a eu l'organisation d'un Coupe du Monde au Brésil, ils ont demandé, pour les entretiens d'embauche, de passer le TOEIC. Mmh. Parce que pour eux, c'était juste nécessaire qu'ils puissent au moins lire et écouter de l'anglais. Mais bien entendu, après, on va beaucoup plus loin, et notamment avec l'IELTS, que j'ai travaillé avec.
Voilà, demande pour entrer dans une université.
Et là, on demande de savoir rédiger rapidement, sans faire de faute, à une structure logique, et au niveau de l'oral, c'est de pouvoir parler de tout et de tous les thèmes possibles. Par exemple, dans les tests IELTS, on peut vous poser des questions sur l'architecture, sur les fonds marins, et c'est pas...
Ça, c'est pour l'entretien.
C'est pour l'entretien, et c'est surtout voir est-ce que la personne peut organiser ou savoir mener une conversation. Et c'est vrai que lorsqu'on part à l'étranger...
Donc les fonds marins, si vous n'avez lu des articles sur l'économie, par exemple, et la politique...
C'est sur le fond, c'est surtout sur la forme.
Sur la forme.
C'est important.
C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que les tests d'anglais sont focalisés sur le business, ce qui n'est pas forcément le cas. Les tests d'anglais sont vraiment basés sur le côté du vocabulaire, de justement la manière de s'exprimer, la manière de rédiger, et c'est pas des tests de business.
Le TOEIC teste aussi la manière de s'exprimer, de parler, etc.
Voilà. Il y a justement le TOEIC.
J'ai testé ce test, il passe
grosso modo
des candidats au TOEIC. C'est à peu près la même chose.
Alors, on va un peu feuilleter le catalogue des tests, quand même, mais grosso modo, écrire, parler, comprendre un texte écrit ou un texte oral. La partie orale est souvent difficile, parce qu'on peut avoir des bons étudiants, de très bons étudiants qui ne font pas de fautes de grammaire, qui ont beaucoup de vocabulaire, qui n'ont jamais vécu en zone anglophone et qui perdent leurs moyens au moment du petit entretien oral, non ?
C'est surtout par rapport à la timidité parfois, et c'est vrai que c'est... L'idée, c'est que lorsqu'on pratique une langue, c'est pour justement aller vers les gens, discuter, partager, voyager.
Oui, mais ça, sait que ça va se résoudre assez vite une fois qu'on va être dans le grand bain et dans le pays anglophone en question.
Vrai, parfois, moi, j'ai des étudiants qui étudient la communication et lorsque je fais un oral avec eux, ils sont là, parfois ils sont en train de pleurer, ils me disent « Oh, je suis totalement bloqué, je ne peux pas parler. » Je dis « Pourquoi tu choisis la communication ? Pourquoi ?» Et c'est vrai que si on veut étudier une langue, il faut aussi accepter qu'il faut s'ouvrir et de pouvoir parler le plus possible.
Alors, tout de même, pourquoi y a-t-il autant de tests ? Alors qu'on a l'impression quand même que globalement ils testent plus ou moins les mêmes choses, hein, écrire, parler, comprendre, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Il y a une partie sous forme de QCM où on coche des croix dans des cases, et puis ensuite il y a des parties où on rédige, des parties où on parle. Mais pourquoi y a-t-il autant de tests, Sophie de Tarlet?
Il y a deux organismes, hein. On en a pas parlé au début, mais il y a deux gros organismes. C'est ETS, c'est américain.
Voilà, les Américains, les Anglais, grosso
modo. Voilà, et les Américains avec Cambridge.
Donc c'est
les Anglais avec Cambridge.
Voilà, les Américains avec le TOEFL et le TOEIC.
Voilà, donc ETS c'est américain avec le TOEFL, TOEIC, et Cambridge c'est évidemment britannique avec l'IELTS.
Donc chaque et les examens de Cambridge.
Et les examens de Cambridge. Donc en fait chaque organisme propose des espèces de plusieurs tests en fait.
Bon, donc là on est sur un affrontement business finalement.
Voilà, c'est deux sociétés, c'est deux sociétés qui développent leur business à travers le monde. Et qui se partagent un peu la planète, j'ai envie de dire.
L'université de Cambridge,
c'est ça, tout ce qui est l'université de Cambridge, oui.
Voilà. Les thèses de l'université de Cambridge, beaucoup sur le monde du Commonwealth.
Alors, on va repréciser, c'est-à-dire
donc,
la
c'est-à-dire
Grande-Bretagne,
le UK, le Canada, l'Australie, l'Irlande.
Ce qui veut dire qu'un étudiant qui veut postuler, dans une université canadienne en langue anglaise, on va lui demander davantage la certification avec un test Cambridge. English, hein, c'est ça, notamment et surtout l'IELTS, c'est ça.
Voilà, qui est obligatoire pour obtenir son visa étudiant, par exemple. Hein, il y a pas d'autres examens qui sont possibles. On va lui demander donc IELTS, on va lui demander Cambridge English Advanced, par exemple. Ce sera pareil en Afrique du Sud, ce sera pareil également au Royaume-Uni, en Irlande.
Ouais. Il faut surtout que les candidats se renseignent sur l'établissement en question, parce que je sais que par exemple, moi, j'ai eu des étudiants qui voulaient partir à UCLA, qui est l'université donc Los Angeles, eux ils demandaient le TOEFL, mais ils acceptent aussi l'ULTS. Moi j'ai des étudiants qui voulaient partir en Malaisie, à Kuala Lumpur, là par contre c'était que l'ULTS. Donc ça dépend vraiment des établissements.
Et en Afrique anglophone, on va davantage être sur des tests de Cambridge English.
Voilà, donc
tradition anglaise oblige.
Voilà, notamment voilà, on parlait que soit en Algérie, ils avaient fait quelque chose avec le British Council pour pouvoir justement mettre en avant l'ULTS. Mais voilà, c'est vraiment, il faut se renseigner.
Alors, et puis c'est même, il faut même passer par son université, parce que quand on n'est pas ressortissant de l'Union européenne, on va avoir besoin d'un visa. Et dans ce cas-là, il faut passer par l'université pour d'abord obtenir un papier qui confirme l'admission, pour pouvoir obtenir son visa, et dans ce cas-là, passer le test demandé par l'université.
Il faut savoir que les tests sont exigés, pour obtenir des visas étudiants. Donc ça, je pense que ça peut intéresser.
Y compris si l'université n'exige pas elle-même le test, parce qu'elle peut estimer qu'avec les résultats scolaires, au vu des bulletins et des résultats, par exemple, au baccalauréat ou aux premiers examens de la licence, elle peut estimer qu'elle ne les demande pas.
Par contre, pour obtenir le visa étudiant, il faudra un test certifié. Par exemple, pour l'Australie, il faudra avoir le TOEFL, par exemple.
Alors, comment s'y retrouver parmi les tests d'anglais? Quelle validité? Quel prix aussi? Vous pouvez poser toutes vos questions et bien sûr aussi vos témoignages. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Kampala, la capitale ougandaise. Donc nous sommes bien en pays anglophone. Bonjour Eddy, soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux invités.
Eddy, alors vous venez, vous êtes originaire du Congo, hein, je crois.
Ouais, exactement.
Vous êtes venu en Ouganda pour faire vos études supérieures?
Ouais. Exactement.
Alors, vous souhaitez vous exprimer ou questionner nos invités à propos des tests d'anglais?
Oui, bien sûr.
On vous écoute.
Bon, moi j'avais dit que réussir un test ou une épreuve écrite en anglais ne signifie pas pour autant être un anglophone. Car personnellement, ayant passé tout mon parcours primaire et secondaire dans un pays francophone, la RDC, j'avais réalisé que notre programme éducatif d'anglais était basé plus sur la grammaire anglaise et sur la pratique.
Oui.
Du coup, on avait fini les études secondaires en étant plus grammairien qu'un type capable de s'exprimer aisément en anglais. C'est quand je suis arrivé à Kampala, en Ouganda, pour poursuivre mes études,
oui,
que j'ai réalisé mon retard dans la pratique de l'anglais.
Donc ça a été très dur quand vous êtes arrivé dans votre université. Je crois que vous êtes dans une université privée, c'est ça, International University of East Africa.
Exactement.
Vous étudiez l'informatique.
Oui, oui.
Et est-ce que cette université, qui est une université assez récente, hein, est-ce que cette université avait exigé un certificat de niveau d'anglais?
Bon, eux n'exigeaient pas ça, mais il faut réussir un test de grammaire, vocabulaire et l'oral pour avoir un minimum de points pour passer. Sinon, eux-mêmes, ils vont te réorienter.
Ah oui, c'est ça. Donc, quand vous êtes arrivé, on vous a fait passer le test.
Oui, oui, exactement.
D'accord. Et donc, vous avez réussi le test, vous avez eu un score acceptable et vous étiez complètement perdu malgré tout.
Oui, oui. Au début, dans la pratique, on se sentait plus bloqué. Mm. Parce qu'on savait tout, la grammaire, mais commencer une conversation, on avait beaucoup du mal. Mm. Parce qu'on n'était pas habitué.
Ça fait combien de temps que vous êtes maintenant à Kampala et dit comme étudiant?
Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois.
Ah, et alors comment ça va aujourd'hui?
Oui, ça va très bien, vraiment. On essaie de s'habituer petit à petit.
Bon, vous parvenez à comprendre les cours, à faire le travail qui est demandé par les professeurs?
Oui, oui. Oui, après un temps, on commence à s'y habituer.
Bon.
Mais au début, vraiment, c'était pas simple parce qu'il fallait aussi s'habituer à comprendre quelqu'un qui parle l'anglais. Parce que chez nous, on utilisait seulement les grammaires. Alors, il faut des fois attirer l'attention pour regarder les lèvres de la personne qui est en train de parler pour des fois comprendre ce qu'il veut dire.
Ouais.
Mais
on imagine bien vos difficultés. En tout cas, bon courage. Et puis, c'est plutôt un témoignage encourageant. Eddie, ce qui veut dire, en tout cas, si on a bien entendu le témoignage d'Eddie, c'est que il faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on a obtenu un bon score à ces tests d'anglais que quand on va arriver dans l'université anglophone, tout va bien se passer.
C'était un test interne à l'université. Ça n'est pas un test international. D'où l'importance des tests internationaux. Qui vont évaluer 4 compétences, c'est-à-dire qu'on sait aussi s'exprimer et qu'on sait aussi comprendre. Mmh. C'est pas n'importe quel test, effectivement. Beaucoup de tests, c'est du simple QCM pour évaluer les connaissances en grammaire. Non, là, les tests dont on parle aujourd'hui, ce sont des tests qui évaluent vraiment un niveau sur les 4 compétences.
Alors, il faut bien expliquer qu'on n'obtient pas un oui ou un non à un test. On obtient un score. Toutes les universités, d'ailleurs, n'exigent pas le même score ni les mêmes tests.
Oui. Par exemple, pour être aujourd'hui en France, pour être diplômé d'une école d'ingénieur, il faut avoir un score minimum à un test de langue. Je crois que c'est 700, chose comme ça.
785 pour le TOEIC et le niveau B2. B2+, enfin le haut du B2 pour un au niveau Conseil de l'Europe.
Pour rentrer dans l'école, on n'exige pas ce niveau, mais par contre pour sortir diplômé d'une école d'ingénieur, on exige ce niveau.
Alors donc TOEFL, TOEIC, ça se chiffre en centaines le score, hein, c'est bien ça.
Ouais.
Par contre pour l'IELTS,
ça correspond à peu près à la bande 6 et demi.
Ouais. Donc quelqu'un qui a un score de 8, c'est déjà quelqu'un qui a un très bon niveau d'anglais.
Ah mais il est très très fort.
Oui, tout à fait. 8 c'est C2, je crois.
Mais ce que disait Eddie, c'est qu'on voit la différence entre le niveau scolaire, très porté sur la grammaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par de nombreux étudiants qui ont fait leur scolarité dans un lycée francophone. Et le niveau exigé lorsqu'on est dans un environnement anglophone. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut parler. Et là, il y a un fossé, entre les deux.
Une question d'un internaute qui nous demande, une internaute à Cotonou au Bénin qui nous dit ces tests coûtent cher, ça on va en parler bien sûr des prix, mais surtout il faut les repasser régulièrement, durée de validité.
Oui, alors c'est vrai, un test c'est valable 2 ans. On n'a pas parlé de la différence entre un test et un diplôme, et dans notre offre à Cambridge, effectivement on a l'IELTS et les diplômes Cambridge English.
En règle générale,
l'IELTS c'est 2 ans, voilà. Un diplôme Cambridge English c'est une validité toute sa vie sur son CV, donc c'est un vrai investissement qu'on fait à un instant donné et on s'en servira toute sa vie.
Oui, par exemple, le TOEIC, on peut dire que c'est le diplôme, la certification la moins chère, mais c'est vrai que c'est 2 ans.
On va parler des prix, justement. Ouais. Sophie de Tarlet, Thomas Alexander et Cécile Loyer, vous restez avec nous, tout savoir, tout comprendre sur les tests d'anglais. On en reparle dans 3 minutes, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons des tests d'anglais aujourd'hui pour tous ceux qui veulent étudier dans une université anglophone ou faire un stage ou postuler à un emploi en zone anglophone ou dans une entreprise anglophone. Si vous venez d'un pays francophone, eh bien ces tests sont un véritable sésame. On en parle avec Cécile Loyer qui est responsable communication de Cambridge English qui fait partie de l'université de Cambridge et qui est réellement le département de la certification et qui fait vraiment de la certification à échelle industrielle. 1,5 million de candidats par an dans le monde qui passent le fameux test IELTS, c'est-à-dire IELTS. Sophie de Tarlet, vous êtes journaliste au Figaro étudiant et Thomas Alexander, vous êtes enseignant en anglais, langue étrangère dans des écoles d'enseignement supérieur en France. Vous êtes anglais d'ailleurs, vous Exactement. Avez appris le français ensuite, vous n'avez aucun accent, c'est incroyable en français.
C'était difficile pour moi, étant plus jeune.
Vous avez appris le français à quel âge, Thomas Alexander?
En fait, ça, c'est une longue histoire.
Non, mais rapidement, parce qu'on revient au sujet qui nous intéresse.
Non, mais en fait, je suis né en France, mais double nationalité. Et donc, mon père me faisait voyager chaque fois en Angleterre et en France.
Ah oui, d'accord, donc vous avez quand même été baigné.
Et c'est vrai que
j'ai dû
apprendre l'anglais en Angleterre et le français en France. Et c'est vrai qu'on voit que c'est très délicat, notamment pour s'y adapter.
On a beaucoup de questions pratiques à vous poser, monsieur et mesdames, et bien sûr, priorité aux étudiants qui nous appellent ou aux auditeurs. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Dieudonné qui est à Birmingham, en Alabama, dans le sud des États-Unis. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Mais il est très tôt chez vous, je crois.
Invité également. Oui, il est 4h du matin.
Ah bah bravo.
Bravo. Vous avez eu des soucis, vous avez passé des tests pour arriver aux États-Unis. Je crois que vous avez étudié quelques mois. Je ne sais plus si vous êtes toujours étudiant ou pas d'ailleurs. Vous êtes originaire de Kinshasa au Congo.
Oui, je suis originaire de Kinshasa et j'ai commencé un degré, disons, un niveau master à l'Université d'Alabama à Birmingham depuis l'automne passé, 2015. Donc, ça fait 5 mois que je suis ici.
D'accord.
Alors, pour venir étudier aux États-Unis, j'ai dû passer évidemment le TOEFL à partir de Kinshasa.
Oui.
Et comme vous avez probablement dû en parler déjà, les universités prestigieuses ou les bourses les plus prestigieuses exigent des scores assez élevés. Alors, dans mon cas, la condition, c'était d'avoir plus de 550 à mon TOEFL et j'ai fait 600.
Bravo.
Sur 660.
D'accord. Ouais, oui, le maximum, c'est combien sur le TOEFL?
900, il me semble.
Oui, en fait, alors, il y a différents tests aussi.
Oui. Ouais. C'était pas l'IBT.
Je pense que le maximum...
Oui, Dieudonné.
Oui, j'allais dire que le maximum c'est 660 avec la version du TOEFL que j'ai prise, c'était la version en papier.
D'accord. Ah oui, il y a plusieurs versions du TOEFL.
Il y a une version.
Ah oui, non, mais il faudrait 5 émissions pour s'y retrouver dans les tests d'anglais.
La version papier est un peu datée maintenant.
D'accord.
En fait, c'est plutôt la version.
Et surtout, il y a que le listening et le reading.
Et le reading. On n'évaluait pas l'oral en fait dans cette version papier.
Non, pas l'oral.
Bon, en tout cas, vous vous en êtes bien tiré. Alors aujourd'hui, comment ça va?
Oui, je m'en suis bien tiré, mais après, lorsqu'on se dit, voilà, on fait un score de 600 sur 660, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas trop des différences avec ceux qui sont ici, mais vraiment loin de là, quoi. Aussitôt arrivé ici, je pense que la difficulté principale, c'est par rapport à l'expression, à l'oral. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut apprendre, l'anglais et tout ça, ben, on garde son accent local, de là où nous venons. Donc nos langues africaines, peut-être mêlées un peu de français et tout ça.
Oui, mais les Américains sont très tolérants sur les accents.
Ils sont très tolérants, mais la difficulté que j'ai eue, c'est que je suis venu au sud des États-Unis. Donc déjà qu'ici, ils parlent avec un accent assez particulier, déjà dans leur pays ici, et la langue, l'anglais parlé au sud a certaines particularités qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, le premier semestre que je viens de passer ici était vraiment un semestre d'apprentissage où il fallait réajuster.
Pour résumer, vous galérez toujours, Dieudonné, on va dire en anglais.
En tout cas, le semestre passé, je ne peux pas appliquer le terme galérer, peut-être parce que je suis un peu perfectionniste. Donc, je suis allé en classe, j'ai discuté, j'ai fait des rédactions et tout ça. Ben, disons que je suis en train de me perfectionner.
Ouais. Mais ce qui est important, Emmanuel, ouais. je crois que ce qu'il faut dire, c'est que les études aux États-Unis coûtent cher. Mm. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un très bon niveau d'anglais pour rentabiliser ces études. C'est pas juste, ben, on comprendra toujours. C'est quand on paye, on a besoin de tirer le meilleur profit de ce qu'on apprend. Et pour ça, il faut être bilingue.
C'est sûr. Dieu donné, si vous deviez donner un conseil aux voisins qui sont encore à Kinshasa, qui rêvent d'étudier dans une université anglophone, où qu'elle soit dans le monde, quel serait ce conseil Dieu donné?
Alors, le conseil serait d'y aller, de ne pas hésiter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui disent, bon voilà, le TOEFL c'est difficile et tout. Moi, je le conseillerais vraiment d'y aller, de le faire. Peut-être qu'ils ont à le faire plusieurs fois, mais il est important de le faire ne serait-ce qu'une fois pour essayer d'évaluer son niveau et de travailler dans les sections listening, reading, speaking et tout ça, les sections dans lesquelles on est faible. Mais de préférence, le faire bien à l'avance, minimum une année avant, pour permettre de se préparer.
Et comment vous vous êtes préparé, vous, Dieudonné, tout seul, avec des livres, comment, avec Internet?
Oui, avec des livres, Internet, des podcasts. Principalement, oui.
Bon, ben vous êtes un étudiant méritant, courageux, hein, bonne chance en tout cas à l'université en Alabama. Et puis on vous laisse terminer votre nuit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci Dieudonné d'avoir été en ligne avec nous. Vous pouvez continuer de nous appeler pour questionner nos invités. 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on va parler de comment préparer ces tests, comment se préparer si on a des moyens limités, si on ne peut pas payer des stages intensifs. Mais avant, je voudrais qu'on revienne avec vous, peut-être Sophie de Tarlet, sur finalement l'étudiant, quand on voit le nombre de tests qui sont acceptés dans les universités, souvent dans une université, il peut y avoir deux tests acceptés.
Oui, bien sûr,
voire plus. Est-ce qu'un étudiant, quand il a le choix, il y a des tests qui vont être plus ou moins favorables à l'étudiant ou pas, Sophie de Tarlet?
Il n'y a pas non plus 36 organismes, il n'y en a que deux.
Donc, il y a plusieurs tests
au sein des organismes. Bien sûr. Mais globalement, c'est en général, c'est le TOEFL pour tout ce qui est universitaire, là, comme disait l'université américaine, c'est plutôt le TOEFL. Le TOEIC, c'est plutôt au monde de l'entreprise.
Et par exemple, une université canadienne qui accepte à la fois l'IELTS et à la fois le TOEFL, lequel des deux est le plus facile? Je pose la question à Thomas Alexander qui entraîne les étudiants.
Alors, les deux ne sont pas faciles, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai une préférence pour l'IELTS parce que la partie listening et reading se fait sur papier.
Et vous dites j'ai une préférence, ça veut dire quoi? Il évalue mieux, donc il est plus difficile?
Non, il y a plus de chances. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que quand j'entraîne mes étudiants à l'IELTS, quand je leur donne les sujets, ils peuvent écrire sur le sujet. Donc, ils écoutent l'oral ou ils travaillent sur l'écrit. Ils peuvent écrire sur le texte. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour l'étudiant. Voilà. Alors que le TOEFL, généralement, est fait sur ordinateur et c'est moins naturel. Donc, pour moi, personnellement,
Et puis, il y a l'épreuve orale.
Il y a l'épreuve orale.
Qui, pour IELTS, est en face à face. Bon. On met l'accent sur l'humain.
Vous, c'est votre boutique, hein, l'IELTS.
Voilà. Oui,
donc, forcément.
Mais,
en fait,
le TOEIC, par exemple, que j'ai passé, disons que c'est sur ordinateur. Il y a une partie orale.
TOEIC
uniquement papier.
Oui, pardon. Et là, c'était sur l'ordinateur. Et en fait, la partie orale était quand même évaluée
sur
ordinateur. C'est-à-dire, on était enregistré. Il y avait une partie écrite. Moi, honnêtement, je trouvé très bien. Et après, c'est vrai que c'est pas facile d'être devant un ordinateur, etc. Il y a certaines... Il faut s'y préparer.
Justement, ma question, ces tests, certains... Alors, l'IELTS, il faut se rendre dans un centre, agréé, bien sûr. Parce que, évidemment, on fait très attention à la triche, etc. Mais sinon, il y a des tests que l'on peut passer à distance de chez soi, via Internet.
Pas du tout. Pour des questions de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prouver que la personne qui a le certificat, c'est bien celle qui a passé l'examen. D'ailleurs, dans un examen, on doit montrer ses papiers d'identité, on laisse toutes ses affaires dans une autre pièce. Vraiment, on fait très attention à la sécurité.
C'est très sécurisé.
Parce qu'il y a eu, des fraudes très importantes. Il y en a eu une l'année dernière au Royaume-Uni avec le TOEIC. C'est très important de pouvoir garantir ces aspects-là, oui.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ce qui s'est passé avec le TOEIC, c'est que à une époque, le TOEIC était utilisé pour des formes de visa professionnel. Et donc, il y avait des gens un peu scrupuleux qui utilisaient ce sorte de... On va dire, ouais, ils utilisaient le TOEIC pour un trafic, pour dire, bah tiens, tu payes ceci, je te fais passer là-bas. Et c'est là que, notamment avec l'ETS, ils ont vraiment fait un travail assez intéressant par rapport à la sécurisation. Et c'est vrai que maintenant, sur les diplômes TOEIC ou même TOEFL, on peut mettre la photo pour vraiment garantir
l'identité. C'est ça. Et les universités anglophones ont la possibilité aussi, je crois, de cliquer sur le diplôme et d'être directement en lien avec le site. Hein,
D'aller vérifier sur un portail que la personne a bien ce diplôme-là.
Parce qu'avant, c'était juste un petit bout de papier avec le score, le nom, mais finalement, c'était
un vérifiable. Tout ça a bien changé. Alors, les prix, quand même. On a dit que déjà, il faut le repasser régulièrement parce que c'est un certificat à un instant T. Au bout de 2 ans, il faut le repasser. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des messages là-dessus. D'ailleurs, j'ai plus les messages là sous les yeux. Mais les prix, surtout. Beaucoup de nos auditeurs se plaignent des prix.
Alors moi, j'ai le prix du TOEFL au Burkina Faso. Hein. J'ai noté ça. Donc, c'est 160 dollars, donc le prix du TOEFL. Donc, c'est quand même pas donné. Alors, il y a des variations selon les pays d'Afrique, mais 160 dollars pour le Burkina Faso.
Ça veut dire qu'en réalité, le prix de ces tests prend peu en compte le niveau de vie dans ces pays-là.
En fait, ça prend en compte le fait que ce sont des investissements à long terme, c'est-à-dire que on passe un test pour aller étudier à l'étranger bien souvent, et dans ce cas-là, on va obtenir des diplômes qui vont permettre une carrière qui n'aurait pas été sans ces études-là, on va dire. Mais donc c'est un investissement à long terme.
L'IULTS, on paye combien en moyenne?
On paye autour de 200 euros.
Partout dans le monde.
À peu près, oui, tout à fait. En fait, tous se valent. TOEFL IBT est à peu près le même prix et Cambridge English Advanced également. Après, ce qu'il faut voir, c'est tout ce qu'il y a derrière. Nous, à l'université de Cambridge, on a 400 personnes qui font de la recherche linguistique. On paye des examinateurs. Enfin, le prix se justifie.
Ouais, mais le chiffre d'affaires de Cambridge English, donc le département qui est une usine à certifier le niveau d'anglais.
Alors, il est public, hein, il faut aller voir sur le site de l'université. Il faut savoir qu'on est un organisme à but non lucratif, donc on n'a pas d'actionnaires. Notre objectif n'est pas de faire de l'argent sur les certifications.
Est-ce que ça n'est pas quand même la cash machine de l'université, c'est-à-dire qui participe évidemment à financer d'autres choses à l'université, non?
Du tout, puisque étudier à l'université,
1,5 million de personnes qui passent le test IULTS,
et on a même 5 millions de candidats
dans les tests confondus.
Tout à fait.
En fait, 200 euros
ça,
ou dollars.
Ça ne vient pas directement chez nous. C'est-à-dire que tous nos centres d'examen sont indépendants. Et donc, nous, on vend les sujets au centre d'examen. Et eux, ils doivent financer, comme je disais, leurs locaux, les examinateurs oraux, qui, comme on l'a dit, c'est du face-à-face, c'est pas des machines. Hein. Donc, il y a des coûts très importants d'administration, de tout ça. Et ensuite, ce que nous, on touche, on le réinvestit dans la recherche linguistique, puisque ça évolue tout le temps.
Alors, pour ces coûts, il faut savoir qu'il y a des accords souvent entre des ministères de l'Éducation nationale et les établissements scolaires. C'est ce qui se passe en France. Mais peut-être que ça se passe aussi à l'étranger. Mais en tout cas, il y a des accords qui sont signés entre les organismes de certification et le ministère de l'Éducation nationale pour proposer la certification à un prix très bas,
voire gratuitement.
Justement, si l'école a le droit donc d'administrer les tests TOEIC ou TOEFL, le coût peut être vraiment très moindre. Mais je voulais justement mettre un autre point. C'est dans le monde en ce moment, il y a ce qu'on appelle les MOOC, ce sont des formations gratuites qui sont la plupart du temps en anglais. Je crois qu'il y a même des MOOC de Cambridge. L'idée, c'est que pour tous les auditeurs, s'ils disent, moi, j'ai pas d'argent, mais je veux savoir à peu près quel est mon niveau d'anglais, ils peuvent s'inscrire dans ces MOOC gratuitement. Et déjà, ils ont des cours en anglais. Ils ont des tests à faire. Il y a même certaines écoles qui offrent même une sorte de petite certification en ligne. Certaines sont gratuites, notamment celle de Harvard. Ils ont de l'argent pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est aussi une alternative.
Vous avez quelques MOOC gratuits donc à nous recommander pour ceux qui veulent se préparer à ces tests gratuitement sans avoir à débourser de l'argent pour un stage intensif.
Tout ce qui est par exemple les MOOC, je conseillerais Coursera et EDX. Qui sont justement...
On va mettre ça sur la page. Coursera EDX.
Vous allez trouver beaucoup de cours en anglais qui sont gratuits, qui vous permettent déjà de vous adapter par rapport à une pédagogie britannique ou américaine. Déjà, si vous arrivez à suivre ce cours, généralement, vous vous dites pourquoi pas passer au TOEIC, TOEFL, IELTS, etc. Après, pour s'entraîner au TOEIC, Il y a énormément de ressources sur Internet. Comparé à IELTS ou au TOEFL, le TOEIC, on en trouve des sites partout. Vous avez juste à taper TOEIC sur Google et on en trouve beaucoup d'exemples.
Thomas, quand on s'inscrit à l'IELTS, on a
exactement
la préparation
voilà.
gratuite.
Voilà. Et aussi, en ligne. Voilà. Quand vous vous inscrivez sur l'IELTS, et ce qui est bien, c'est qu'il vous donne 20 heures, je crois.
Oui, ça.
Donc, une formation pour pouvoir vous entraîner sur les différents examens.
Les sites eux-mêmes proposent des annales gratuites.
Voilà,
on peut s'entraîner.
Après, il faut faire attention qu'il y a quand même des sites alors c'est bien et pas bien. Par exemple, je sais qu'il y en a certains sur l'IELTS qui sont des sites qui sont pas officiels, qui mettent des sujets d'IELTS en toute illégalité. Et c'est gratuit, c'est ça qui est terrible. Et donc pour certains étudiants qui veulent s'entraîner, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Mais alors, rien ne vaut un livre.
S'entraîner, exactement. C'est ce que j'allais dire, hein, Thomas Alexander. Ma question est pour vous, enseignant de l'anglais, langue étrangère. S'entraîner ne veut pas dire apprendre l'anglais. Si on a un niveau très moyen, est-ce qu'il faut d'abord se remettre vraiment à l'écrit, faire des fiches de vocabulaire, faire des fiches de grammaire avant de passer à la phase entraînement?
Alors, tout simplement, apprendre une langue, c'est aussi un peu comme du sport. C'est-à-dire que si vous allez à la salle de sport et vous êtes totalement pas motivé, que vous faites ça parce que vous sentez obligé, ça va jamais marcher. Et c'est vrai que, notamment quand on fait du sport, il y a des choses à faire qui sont assez difficiles, qui font suer, etc. Et je pense qu'il faut d'abord commencer, par exemple, courir dehors, faire des choses qui sont bien pour le corps. Et surtout,
en anglais, ça donne quoi?
Alors, en anglais, par exemple, quelque chose, c'est les séries télé, les podcasts, justement, Dieudonné en parlait. Vous avez notamment sur Netflix, ou même sur YouTube, vous avez des séries en anglais avec des sous-titres en anglais, ce qui est vraiment bien, parce que parfois, il y a des accents qui sont un peu délicats à comprendre, mais il faut se dire, voilà, j'apprends une langue, mais j'apprends avec le plaisir. Et donc, c'est sûr qu'il y a des étudiants, ils arrivent, ah, moi, j'apprends l'anglais, je regarde que des séries télé, ce qui est pas suffisant. C'est pas parce qu'on aime des séries télé qu'on devient
télé.
Des...
J'ai aussi deux sites intéressants qui ont des c'est le site de Voice of America donc et le site de la BBC.
Ah,
il faut savoir que le site de la BBC a une partie classroom. Donc quand vous allez sur le site, vous cliquez sur classroom et là vous avez une partie pour apprendre l'anglais. Donc il y a
on peut aussi regarder France 24 en anglais, hein, je le dis parce que c'est notre groupe.
Mais là c'est vrai que sur la BBC, c'est vraiment une partie pour apprendre l'anglais.
Évidemment, c'est quand même des conseils qui sont assez évidents, mais pour progresser, pour ne pas faire de fautes, puisqu'on le sait, ces tests sont très durs sur les fautes de grammaire, notamment
sur le vocabulaire.
Il faut
faire des tests blancs. Il faut faire des tests blancs pour bien se familiariser au format des examens, ça c'est essentiel.
Alors, il y a aussi un problème avec nos chers étudiants, c'est que parfois ils veulent trop bien faire. Notamment sur l'écrit ou à l'oral, ils veulent montrer qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont appris des mots assez shakespeariens.
Vous pensez aux étudiants français, là?
Non, mais toutes les personnes, c'est qu'en fait, on veut bien faire. On veut bien faire, même dans un rendez-vous, on veut bien faire, etc. Et c'est vrai que parfois, moi, j'ai des étudiants, ils doivent écrire 150 mots, et ils essayent de faire quelque chose de très littéraire. Et je dis, non, nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que tu es capable d'écrire 150 mots sans commettre de fautes graves? Et en fait, parfois, ils réfléchissent tellement, de, oh, faut vraiment que j'impressionne l'examinateur, qu'au bout du compte, ils vont faire des erreurs très bêtes. Et voilà, il faut vraiment dire...
Il faut se montrer efficace.
C'est l'esprit anglo-saxon. Voilà, donc des phrases courte et pas chercher à faire des phrases très compliquées,
ah
surtout.
Oui. Ouais.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment se retrouver dans la jungle des tests d'anglais? À quoi servent-ils? Comment s'y préparer surtout? On se retrouve juste après une petite pause, entre autres Rokia Traoré. I'm gonna walk on by all night long. I'm looking for a home. I'm gonna march till down on and on. Walk, walk. I'm gonna sing it out on my own. I'm gonna see you bone. I'm gonna jump right into the unknown. Walk, walk, high. c'est pas du tout Rokia Traoré, c'est Wok Wok Yael Naïm. Merci beaucoup Romain d'avoir corrigé. Nous parlons des tests d'anglais aujourd'hui, puisque c'est le sujet éducation, comme chaque vendredi chez 7 milliards de voisins. Peut-être d'abord encore quelques derniers conseils importants, Sophie de Tarlet.
Sur les tests, il faut savoir, par exemple, pour étudier en Grande-Bretagne, on ne demande pas forcément des tests. Moi, je connais bien la procédure UCAS, qui permet d'étudier dans les universités britanniques.
Donc, c'est une procédure gérée par le ministère de l'Éducation en Grande-Bretagne.
Oui, voilà, qui est
un portail.
L'équivalent d'APB français.
Voilà, exactement, voilà, où on rentre ses choix d'université.
Voilà, exactement.
Y compris pour les étudiants étrangers.
Exactement, tout à fait. Donc, peut-être des étudiants africains qui seront intéressés par cette procédure. Et en fait, en tout cas, pour les Français, on demande une note minimum. Si on, par exemple, on envoie un dossier scolaire, et si l'université est intéressée par votre candidature, il va exiger de vous un minimum au bac, par exemple. On va vous demander d'avoir au minimum 18, par exemple, ou 16 en maths. Et là, on va vous prendre si vous avez ce minimum. Donc, c'est plutôt sur les notes du bac.
Si on vient d'un lycée international.
C'est si loyer. Oui.
Pas toujours. Là, c'était un exemple de quelqu'un qui venait d'un lycée français. Mmh. Donc, il y avait les notes du bac, en fait, étaient assez prises en compte. Ouais. Donc,
Mais c'est vrai que les notes doivent être vraiment très très, très fortes. Hein. On est dans du 15 en moyenne, ce qui est vraiment très très fort.
Mmh. Donc plus l'élève est intéressant, je dirais, plus la note va être basse.
Cécile Loyer, vous reconnaissez qu'en réalité, les universités font ce qu'elles veulent.
Les universités font ce qu'elles veulent.
Il peut y avoir une pression de la part de Cambridge English.
Mais notamment si on n'est pas ressortissant de l'Union Européenne, en fait, il y a ce qu'on appelle le Tier 4 visa, qui est le visa étudiant. Et donc, si une université fait partie des sponsored universities, dans ce cas-là, ces choix qui font foi auprès du gouvernement britannique. Donc, elle choisit les examens qu'elle souhaite. Donc, c'est pour les universités les plus prestigieuses.
Mais attendez, je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est pas très clair. Un étudiant qui n'est pas un ressortissant européen qui souhaite étudier dans une université anglaise, britannique, ne se voit pas forcément demander...
L'IELTS, par exemple, se voit demander le diplôme qu'a choisi l'université, par exemple, Cambridge English Advanced.
Mais se voit forcément demander une certification sur son niveau d'anglais.
Absolument.
Pour le visa, donc.
Pour le visa.
C'est pas pour l'acceptation au sein de l'université.
Absolument.
C'est pour le visa. Et pour les ressortissants de l'Union Européenne?
Pas
de visa, ceux
pas
qui
de
restent
visa
en Europe.
À demander, mais des demandes précises, des niveaux
du bac,
demandés précis par
de niveau et pas forcément de certification en langue anglaise. Pas à tous
il
les
faut aller voir sur les sites des universités.
C'est ça,
majoritairement, les meilleurs vont demander quelque chose.
Pour les universités.
Je suis totalement d'accord.
Alors, pour les universités canadiennes, par exemple, pour les ressortissants non canadiens et qui sont francophones, est-ce que l'université exige automatiquement une certification en anglais ou c'est du côté, au contraire, du visa que ça se passe?
Alors, c'est plutôt du côté effectivement du visa que ça se passe et en fait, le test permet à la fois l'admission à l'université et le visa.
Donc ça veut dire qu'il faut faire attention pour les voisins qui nous écoutent, ils peuvent être tout à fait admis dans une université canadienne sans qu'on leur demande une certification concernant leur niveau d'anglais, mais au moment de faire leur demande de visa, là, ils vont avoir un problème.
Absolument.
C'est ça.
Et il faut s'y prendre longtemps à l'avance.
Ah oui, ça est arrivé aussi, nous, avec des étudiants.
Il faut aller sur le site de chaque ambassade, parce que pour l'Australie, comme je disais, c'était le TOEFL. Donc, chaque ambassade fonctionne différemment.
Pour le Canada, il y a un site très bien, c'est studyincanada.com.
Pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont sur le continent africain, évidemment, pour passer ces fameux tests d'anglais, il faut se rendre soit dans des consulats, soit dans des ambassades, soit dans des écoles.
Alors, ceux qui sont le plus répandus, les centres d'examen le plus répandus en Afrique, sont les centres d'examen du British Council. Donc, je sais qu'il y en a, à Dakar, il y en a à Libreville, il y en a.
Ouais, on trouve
à
la
Port-Gentil,
liste très facile.
Le site internet donne vraiment toutes les informations. On sélectionne le pays en question et vous avez toutes les.
Pour ETS, c'est pareil, on sélectionne le pays, on a l'adresse du centre.
Donc, ETS, c'est-à-dire pour les tests TOEFL et TOEIC, les tests américains.
Voilà, donc en général, c'est le centre est dans la capitale du pays.
Thomas Alexander, grosso modo, un jeune qui nous écoute, qui a très envie d'aller étudier dans une université anglophone, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour être sûr d'avoir le niveau d'anglais requis? Parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain.
Ça dépend aussi notamment de la certification. la certification à préparer de manière plus courte, c'est le TOEIC. Le TOEIC, honnêtement, ouais,
mais
en un mois.
Pour les universités, c'est pas forcément alors, ça qu'on demande. Hein, c'est
pour ça que moi j'ai été étonné l'année dernière quand j'ai envoyé certains de mes étudiants à l'étranger. Justement, TOEIC était accepté. Donc, il faut vraiment se renseigner par rapport à ça.
C'est le plus facile à obtenir.
C'est le plus facile à obtenir. Après, pour vraiment travailler, c'est un mois si on travaille tous les jours. Deux mois, c'est nickel.
Ah oui. Et après, il faut s'inscrire à l'avance.
Faut s'inscrire, ouais.
IELTS, ça se bouscule un peu au portillon, donc faut prévoir
et
quand même
sur
4-5
internet.
Mois à l'avance.
Merci à vous tous. Cécile Loyer, responsable communication de Cambridge English, Sophie de Tarly, journaliste au Figaro étudiant, Thomas Alexander, enseignant d'anglais langue étrangère. Merci à vous, les voisins, pour vos appels. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Lundi, 7 milliards de voisins. Quelle place pour l'humour et les humoristes dans nos sociétés globalisé mais divisé, djihadisme, racisme, handicap, peut-on rire de tout avec tout le monde? Une question plus que jamais d'actualité. Alain